Bonjour, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Mgr Dominique Letourneau, auteur avec Pascal Raphaël Ambrogi d'un dictionnaire encyclopédique de Marie, un ouvrage remarquable paru l'an dernier aux éditions des Clés de Brouwer. Bonjour Mgr.
Bonjour Madame.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie de m'inviter.
Je le disais à l'instant, vous êtes l'auteur d'un dictionnaire encyclopédique de Marie chez DDB, qui est une véritable somme colossale, visant à pratiquement, je crois, tous les sujets ayant un rapport avec Notre-Dame, dans tous les domaines, et même très au-delà de l'aspect religieux de la question. Pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée d'un pareil ouvrage et nous le présenter de façon un peu détaillée ?
Écoutez, cet ouvrage, c'est mon collègue, mon co-auteur plus exactement, qui est Raphaël Ambrogi, qui est un père de famille, un fonctionnaire engagé dans la défense du patrimoine linguistique français, qui en a eu l'idée. Et quand il m'en a parlé, je lui ai proposé de collaborer avec lui, ce qu'il a accepté d'emblée. Et très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il convenait d'aller plus loin qu'un simple dictionnaire, pour ne pas rester, je dirais, au niveau des généralités, des choses qu'on connaît un peu partout. Et donc l'idée d'un ouvrage à caractère encyclopédique s'est ainsi fait jour très rapidement, et ce, d'autant plus qu'il n'existe actuellement aucun dictionnaire marial et aucune encyclopédie mariale en français, moins encore de dictionnaire encyclopédique. Donc c'était, nous a-t-il paru, erreur utile que de nous lancer dans cette direction-là, qui donc supposait beaucoup plus de travail que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Et nous l'avons fait en partant du principe qu'il ne s'agissait pas de réaliser une œuvre de spécialiste, mais un ouvrage pour le grand public, même si évidemment il se doit de demander des sujets avec rigueur et suivre en détail tous les sujets, et non seulement théologiques sur Marie. Alors c'est un ouvrage qui a à peu près 6000 entrées, 1500 pages, ça peut paraître énorme beaucoup. En réalité, bon, il aurait été possible de couvrir des dizaines d'ouvrages, c'est évident, mais dit l'adage bien connu, de Mariam Nunquam Sadis, on n'en dira jamais trop de Marie, nous avons essayé de couvrir tous les sujets possibles. Enfin, il fallait évidemment bien mettre un terme aussi à l'entreprise et proposer également un petit maniable au public, ce qui n'aurait pas été le cas finalement si on avait abouti à plusieurs volumes. Alors, quelles sont peut-être les caractéristiques principales de cet ouvrage ? D'abord, comme le nom l'indique, de réunir à la fois l'aspect d'un dictionnaire et d'une encyclopédie, ce qui, sauf erreur de ma part, ne s'est jamais fait dans ce domaine. Donc les articles sont rangés par ordre alphabétique, d'une part, et de l'autre, ils doivent embrasser donc absolument tous les sujets. Autrement dit, couvrir les 2000 ans de christianisme, les 5 continents, et l'ensemble des domaines dans lesquels la Sainte Vierge intervient, ou on l'a fait intervenir, à un titre ou à un autre. Alors, il ne s'agit donc pas, comme vous l'avez relevé, pas uniquement des questions religieuses, des sujets classiques tels que la théologie, la liturgie, l'histoire, les apparitions, les sanctuaires, ou même l'iconographie, mais balayer aussi des sujets que l'on ne pense pas de prime abord, forcément. Par exemple, des communes ayant un nom marial. Il y en a 115 en France, on ne s'en rendait peut-être pas compte. L'armorial de 34 communes françaises comporte un élément marial. La philatélie, il y a énormément de timbres dans le monde entier qui ont un sujet marial. Pays marial, dit considéré comme tel. Il y en a une quinzaine, dont la France, pays royaume de Marie, et la Bretagne, terre de Marie. Des villes mariales. J'en ai repéré 27, donc Cambrai, Chartres, Lourdes, Lyon, Pontmain, voilà, Pontmain en est une, et puis Orvelet. Donc nous avons 6 villes mariales en France, sur 27. Les chansons mariales françaises contemporaines, d'Aznavour, avec Ave Maria, Hosanna, Brassens, Gainsbourg, Hallyday, etc., bien d'autres. Le cinéma avec plus de 1000 films, alors on n'a pas mis les 1000 titres, mais enfin on a mis un bon nombre de ces films, de ces titres-là, etc. Bon, alors, dans la spécificité de ce dictionnaire encyclopédique de Marie, je soulignerai encore la présentation de nombreuses prières classiques en latin et en français, des prières composées par des saints ou des théologiens, et nous citons aussi souvent un ou plusieurs textes mariales d'un auteur spirituel, d'un saint, d'un théologien, qui aide à approfondir ce qui vient d'être dit et favorise également la piété. Donc ce dictionnaire encyclopédique de Marie a pour finalité non seulement connaître Marie, si je peux dire, sous toutes les coutures, mais aussi de la faire aimer et de contribuer à la prier. Et autre particularité, l'indication à la fin de beaucoup de notices d'œuvres qui contiennent le mot dans leur titre, qu'il s'agit d'œuvres d'art, peinture, sculpture, mosaïque, etc., de musique, de littérature ou de cinéma. Ce qui, tout bien considéré, fait que le dictionnaire encyclopédique de Marie non seulement n'a pas d'équivalent en langue française, mais je pense qu'il en va de même dans toutes les autres aires linguistiques. Il s'agit vraiment d'un ouvrage unique, et par sa conception, et par sa vise.
J'ose à peine vous demander, Monseigneur, combien de temps vous avez mis à le préparer ?
Bon, nous avons passé 7 ans à le faire, pour moi 7 ans de loisirs et de vacances, et ça me détend si je puis dire. C'est pas ma activité principale, loin de là, donc c'est quand j'ai du temps que je fais dans les déplacements, y compris dans le train, dans le métro, dans l'autobus, je travaille.
Mais je précise que c'est un ouvrage non seulement remarquable, mais indispensable. On y trouve des entrées totalement inattendues. Il y a les hymnes orthodoxes. Je crois que c'est la première fois que je trouve le texte complet de l'hymne acatiste, par exemple.
Oui, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le catholicisme. Il y a beaucoup de choses concernant l'orthodoxie et le protestantisme aussi, bien évidemment.
Mais c'est un ouvrage remarquable que je ne saurais trop recommander, non seulement aux personnes qui se spécialisent un peu dans l'étude de la mariologie, mais à tous ceux qui aiment la Sainte Vierge ou qui sont simplement curieux d'en savoir davantage. Monseigneur, citant Jean 23 au début de l'ouvrage, vous insistez sur le caractère marial de notre époque, comme disait le pape. Pouvez-vous nous expliquer ce que, d'après vous, Jean 23 entendait par là ? Car nous avons souvent le sentiment de vivre une époque tragiquement déchristianisée, d'où Dieu, le Christ, la Sainte Vierge paraissent terriblement absents.
Oui, écoutez, la Sainte Vierge est absente, elle est absente, en réalité, elle s'est manifestée elle-même à nombreuses reprises en moins de 2 siècles. Que l'on songe, ce qui est un phénomène absolument unique, à, je pense jusqu'à présent 5, mais enfin, en pensant à l'émission, je constatais qu'en fait, à 6 apparitions mariales, au moins, qui ont lieu en France au 19e siècle.
Qui sont reconnues, alors qu'il y en a peut-être probablement beaucoup d'autres.
Il y a d'autres plus moins importants, mais la rue du Bac, alors la rue du Bac n'est pas reconnue en fait, parce que ça n'a pas besoin de reconnaissance, c'était une telle traînée de poudre, la diffusion de
la
médaille, que c'est pas besoin de reconnaissance officielle. Enfin, il y a la rue du Bac, il y a Lourdes, la Salette, Pontmain, Saint-Bosy de la Cille, Vendéro.
En 1874.
Voilà, c'est une invitation à ne pas travailler le dimanche, et puis le voisin. Et puis au XXe siècle, l'île Bouchard. Mais aussi, pour ne citer que quelques exemples parmi bien d'autres, bien entendu Fatima au Portugal en 1917, Bourin en 1932 et Banneux en 1933 en Belgique, Amsterdam en 1935 à 1949,
Notre-Dame de tous les peuples.
Donc Marie nous invite à la pénitence et à la conversion, à réciter le chapelet, à être des âmes de prière, elle nous fait savoir qu'en priant, nous pouvons écarter des fléaux, et nous avons l'assurance que l'invocation présente de Notre-Dame, notamment, évidemment, par la récitation du chapelet, justement, est toute puissante. Et la situation présente est sans doute difficile, mais, comme le pape François le disait dans son récent voyage pastoral au Mexique, la résignation face aux plaies de la société est l'une des armes préférées du démon. Alors, la femme couronnée de soleil sera sans doute au cœur des derniers temps, mais nous sommes déjà dans les derniers temps, depuis la venue de notre Seigneur sur Terre.
Précisément.
La présence de Marie dans notre vie est absolument essentielle. Là où Marie est absente, il n'y a pas grand-chose à espérer. Et je pense qu'il y a trois recours qui sont souverains pour éloigner le diable. C'est faire le signe de la croix, utiliser l'eau bénite et mettre Marie dans sa vie, invoquer Marie.
Et c'est ce que disait l'abbé Guérin, dont je suis le postulateur.
Oui.
Non, quand vos affaires ne tournent pas comme vous l'avez souhaité d'un point de vue spirituel, c'est que vous n'avez pas mis Marie de votre côté.
Voilà, ça certainement.
Mais certains commentateurs, Monseigneur, je pense à l'abbé Laurentin entre autres, ont beaucoup insisté à la fin du XXe siècle sur ce qu'ils appelaient la multiplication des apparitions mariales dans le monde. Il est vrai que vous en citez un nombre considérable dans le livre, je n'ai pas compté, je suis restée un peu rêveuse.
Je pense presque 1100.
Oui, je pense qu'on arrive à un chiffre absolument hallucinant. Alors, vous ne précisez pas d'ailleurs à tous les coups si l'Église s'est prononcée sur la réalité des faits, ni sur la personnalité des voyants, mais on est tout de même extrêmement frappé par cette multiplication. Mais pourriez-vous nous rappeler à l'attention de nos auditeurs en quoi précisément consiste une apparition et ce qui fait que l'Église la reconnaît ou ne la reconnaît pas ?
Écoutez, je viens d'évoquer plutôt certaines de ces apparitions récentes. La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié en 1974 un document intitulé « Méthode pour discerner les présumées apparitions et révélations ». Présumées, c'est, je dis bien, si je ne dis pas que l'Église s'est prononcée ou pas, la plupart du temps, on met « présumées et apparitions présumées » ou « le persécuteur prédit avoir », etc. Donc, alors, quelles sont ces conditions particulières ? D'abord, les critères positifs, des critères positifs et des critères négatifs. Les critères positifs, quant à l'existence du fait, certitude morale ou du moins grande probabilité acquise au terme d'une enquête sérieuse. et circonstances particulières relatives à l'existence ou à la nature du fait, c'est-à-dire les qualités personnelles du ou des sujets, équilibre psychique, honnêteté, droiture de vie morale, sincérité et docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d'une vie de foi, etc. Ensuite, quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle vraie et exempte d'erreur. Et ensuite, une saine dévotion et des fruits spirituels abondants et constants. Par exemple, l'esprit d'oraison, des conversions, des témoignages de charité, etc. Et les critères négatifs, c'est d'abord l'erreur manifeste sur le fait. Ensuite, des erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la Bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans la manifestation. Compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté, même inconsciemment, des éléments purement humains, voire quelque erreur d'ordre naturel, à une révélation vraiment surnaturelle. L'évidente recherche du lucre, profit en relation étroite avec le fait même. Je me rappelle maintenant que Bernadette, par exemple, à Lourdes, refusait absolument qu'on lui donne de l'argent.
Systématiquement.
Alors qu'elle était pauvre, etc. Des actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l'occasion du fait lui-même par le sujet ou ses accompagnateurs. Des maladies psychiques ou des tendances psychopathiques du sujet ayant exercé sur le fait présumé son naturel une influence certaine. Ou psychose, hystérie collective, choses du même genre. Bon, voilà, donc en réalité, peu d'apparitions font l'objet d'une approbation officielle. J'en ai relevé 5 au XIXe siècle. Apparition à Alphonse de Ratisbonne, puis la salette Lourdes Pontmain et Saint-Basile de la Cille. 14 au XXe siècle. À Quito, en Équateur, en Pologne, à Fatima, à Pontevedra, en Espagne, à Tuy, au Portugal, en Espagne aussi, à Bourg-en-Banais en Belgique, Bouchard, Syracuse en Italie, à Tiquita au Japon, Bethanie au Venezuela, Damas, Saint-Nicolas en Argentine, Mazar en Italie, et 3 au XXIe siècle, Notre-Dame-du-Lot, Amsterdam et Kibéo au Rwanda.
En rappelant que Notre-Dame-du-Lot est une apparition, plus une série d'apparitions du XVIIe siècle que Mgr Di Falco a reconnu récemment.
Très long, sur une très longue durée, mais elle n'a été reconnue qu'en 2008.
Oui. Par exemple, dans cette série d'apparitions, que pensez-vous des faits de Pontmain par rapport aux critères que vous venez de rappeler? Comment les situez-vous dans la continuité des grandes apparitions mariales françaises du XIXe siècle?
Je ne sais pas s'il convient de parler de continuité dans ces apparitions, parce qu'à la rue du Bac, Marie annonce la chute de Charles X, la Commune de Paris et les persécutions religieuses qui l'accompagnent. À Pontmain, elle annonce la fin de la guerre de 70-71 et invite à demander miséricorde. À la Salette, elle s'élève contre le travail du dimanche, tout comme à Saint-Bosile de la Sylve, et annonce des fléaux. À Lourdes, Marie se présente comme l'Immaculée Conception et invite à réciter le chapelet, tandis qu'à Pellevoisin, elle demande de propager le scapulaire du Sacré-Cœur. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que la prière est toujours présente dans ses apparitions.
La prière et la pénitence.
La prière et la pénitence. Quant aux apparitions de Pontmain, elles correspondent indéniablement aux critères positifs énoncés à l'instant, ce que corrobore le fait que vous ayez à vous occuper de la cause de béatification de l'abbé Michel Guérin.
Voilà. Selon vous, Monseigneur, quelle est la signification de l'apparition de Pontmain dans son contexte de l'époque et que dit-elle aux chrétiens d'aujourd'hui?
Il me semble que pour un est une apparition marquée comme d'autres par le signe de l'étoile.
C'est ce que j'allais vous demander.
La symbolique mariale est très riche. Et donc, on pense à la célèbre homélie de Saint Bernard. Pour vous tous qui prenez conscience que loin d'avancer sur la terre ferme, vous flottez sur le fleuve de ce monde au milieu des orages et des tempêtes, ne détournez pas les yeux de la lumière éclatante de cet astre si vous ne voulez pas être englouti par les tempêtes. Si les vents de la tentation s'élèvent contre vous, si vous êtes poussé sur les écueils des tribulations, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes assailli par les flots de l'orgueil, les flots de l'ambition, les flots de la médisance, les flots de l'envie, regardez l'étoile, appelez Marie. Si la colère ou l'avarice ou les tentations de la chair attaquent la nacelle de votre esprit, regardez Marie. Si troublé par la grandeur de votre crime, confus de la laideur de votre conscience, terrifié par l'horreur du jugement, vous commencez à être entraîné dans les groupes de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pensez à Marie. Dans les dangers, dans les angoisses, dans les perplexités, pensez à Marie, invoquez à Marie, etc. Ça continue, c'est l'homélie de Superbis ou Ceste.
Les plus beaux textes de Saint Bernard.
Voilà, donc Marie est l'étoile du matin, comme nous le disons d'ailleurs dans les litanies de Lorette, elle est l'étoile de la mer, l'étoile de l'espérance, l'étoile de l'évangélisation pour le bienheureux Paul VI en tant que première missionnaire, et comme le dira Saint Bonaventure, l'étoile supérieure qui est la bienheureuse Vierge nous conduit au Christ, et à partir d'elle se comprend ce que l'on dit dans le livre des nombres. Donc la Marie l'étoile, elle nous guide vers Dieu. Saint Joseph Maria, le fondateur de l'Opus Dei, disait que Marie est le raccourci pour aller à Jésus, et que même Saint Joseph raccourci pour la Marie, Marie raccourci pour aller à Jésus, et de Jésus nous allons au Père, et du Père et du Fils nous allons à l'Esprit Saint. C'est un processus par conséquent qui conduit le fidèle de la Sainte Famille, de la Trinité de la Terre, à la Trinité du Ciel.
On pourrait dire également, Monseigneur, qu'il y a une particularité à Pouma, c'est cette robe étoilée que porte Notre-Dame, que l'on retrouve dans une apparition plus ancienne, celle de 1637 à Notre-Dame des Victoires, aux frères Fiacre. Et ces deux apparitions, Notre-Dame apparaît dans cette robe étoilée. Je ne me souviens plus d'ailleurs si, dans l'immédiat, si d'autres apparitions ont cette particularité de la robe étoilée, renvoient dans les deux cas aux destinées de la France.
Notre-Dame des Victoires est assez particulière, effectivement, parce que ce brave fiacre qui voit la Sainte Vierge avec un enfant dans les bras, et elle lui dit « ce n'est pas mon fils,
mais le dauphin. »
Voilà, c'est le fils que c'est le roi que je dessine à la France. D'ailleurs, il sera appelé son prénom est Dieu donné. Justement, avant de s'appeler Louis, il est Dieu donné par Dieu à la France.
C'est une apparition tout à fait étonnante quand on pense de surcroît que le frère Fiacre, qui n'a jamais quitté Paris, va avoir une vision très détaillée du sanctuaire de Cotignac en Provence.
Exactement aussi. Puis alors pour la petite anecdote, comme il portait une image sur lui, son image va être utilisée quand il sera béatifié par les cochers, et donc le fiacre, ça vient de là. C'est les cochers avaient l'image de Saint Fiacre sur eux, et donc les carrosses, on les appelait les fiacres.
Lorsque Monseigneur Vicard a reconnu l'apparition de Poumain très tôt, dès le printemps 1872, il lui a donné le nom canonique de Notre-Dame d'Espérance. Pouvez-vous, là encore, nous parler de cette titulature mariale? En vous lisant et parcourant l'encyclopédie, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. J'en parlais avec Mgr Moutel, d'ailleurs l'évêque de Saint-Brieuc, qui a un sanctuaire Notre-Dame d'Espérance dans son diocèse, et je lui disais, mais c'est une titulature plus fréquente qu'on ne le croit, qui est très belle. Pouvez-vous nous en parler?
Écoutez, Marie est appelée Spes Nostra, dans l'antienne Salve Regina, au Vierge très fidèle. Si vous avez à cœur de nous sauver, accueillez-nous et sauvez-nous sous les ailes de votre miséricorde, car nous n'avons pas d'autre espérance de salut, disait aussi saint Ephrem, le Syrien, et saint Pierre Damien, ô notre mère et notre espérance, nous savons que tous les trésors des divines miséricordes sont entre vos mains. Donc, c'est bien parce que Marie est la médiatrice de toutes les grâces, que nous pouvons avoir une ferme espérance en l'avenir que Dieu nous réserve, ainsi qu'en la gloire du paradis. Parce que Marie est effectivement notre recours en toutes circonstances. On l'appelle aussi la toute-puissance suppliante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais dit non à son fils. Donc on peut penser que si elle n'ayant jamais rien refusé à son fils, son fils lui-même ne refusera rien. Par conséquent, si nous passons par Marie, si nous mettons notre espérance en Marie, bien, nous sommes assurés, à condition évidemment de lutter pour être écrivés notre foi, mais nous sommes assurés qu'elle ne nous laissera pas seuls un seul instant.
Demandez ma mère que je ne puis rien vous refuser.
Voilà, c'est exactement ça.
On a parfois dit que Poma était une apparition nationaliste car elle était liée aux destinées de la France. Pourtant, ainsi vous le rappelez de manière extrêmement détaillée dans votre ouvrage, la protection de Notre-Dame sur la France est très ancienne et constante. On revient à l'ancien adage « Regnum Galliae, Regnum Mariae, nunquam perebit » le royaume de France et celui de Marie, jamais il ne périra. Pourriez-vous nous parler de cette protection mariale, Monseigneur ?
Une étude au moins, peut-être pas un ouvrage, mais une étude à faire sur cette protection mariale de la France et de Dieu en général avec la France et l'Église. En tout cas, le qualificatif de non-nationaliste appliqué à Poma, ça me paraît tout à fait impropre. N'oublions pas que la France, justement, est consacrée à la Sainte Vierge depuis le Louis XIII, que la France, vous venez de la rappeler, est qualifiée de royaume de Marie, et je dirais que Marie se trouve bien chez nous. On témoigne son apparition à la veille de la Grande Guerre à Versailles, où elle dit « Mon fils désire que l'on fasse des images et des statues me représentant ainsi et qu'on m'invoque sous le vocable de reine de France. Si l'on répond à ce nouveau désir de son dit vainqueur, la France redeviendra tout particulièrement mienne. Je la prendrai à jamais sous ma protection maternelle et mon fils se plaira à répandre sur elle d'importantes bénédictions. » Et elle se mit à prier à Jésus-Christ « Mon fils, pardonnez-lui, elle vous aime depuis toujours puisqu'elle n'a jamais cessé de m'aimer. » C'est entendu la France. Au cours de cette belle journée, la Vierge serait apparue une seconde fois environnée de nuages. Ses pieds sembleraient posés sur la moitié d'un globe terrestre. Le mot France serait inscrit sur la gauche de cette vision. Elle serait vêtue d'un manteau bleu, fleur d'Élysée, bordée d'hermine blanche, les mains jointes. Subitement, elle aurait ouvert son manteau, découvrant une robe blanche et une ceinture bleue retombant en écharpe tricolore. Le Sacré-Cœur de Jésus apparaît à son tour à Marcel, la voyante, le 31 décembre suivant, lui aussi portant une écharpe tricolore. Son cœur, qui leur aurait montré la main gauche, couronnée d'épines et sanglants, serait apparu sur le blanc de l'étole. Sur le rouge aurait écrit « Il veut régner sur la France ». Son cœur, qui leur aurait montré la main gauche, couronnée d'épines et sanglants, donc il serait, parce que c'est une apparition qui n'a pas été reconnue, mais enfin à Versailles, et on voit donc qu'il y a, et les apparitions variées autour des siècles montrent que la France a un rôle à jouer, sans aucun doute, dans le monde. Et que Dieu et la Sainte Vierge la protègent d'une façon particulière. Même si parfois la Sainte Vierge a dit, je crois que c'était à la Salette qu'elle avait du mal à retenir le bras de son fils, tellement il pesait lourd et qu'il voulait châtier. Enfin, comme nous sommes dans la miséricorde, Saint Augustin a rappelé que Dieu a plus de difficultés à retenir sa miséricorde que sa colère.
Mais d'ailleurs, la Poma peut apparaître comme la réponse à la Salette. Le bras de mon fils est si lourd, je ne puis plus le retenir. Et à Poma, mon fils se laisse toucher.
Voilà, tout à fait, se laisse toucher. Donc, mais c'est que toute la question est de prier et d'invoquer la Sainte Vierge. C'est de faire beaucoup. C'est certainement la réponse aux problèmes contemporains que d'invoquer davantage la Sainte Vierge.
Mais c'est précisément ce que disait l'un des jeunes voyants de Poma, Eugène Barbedette, qui en disait la guerre va finir. Oui, la guerre va finir, mais prier, ce qui prouve que cet enfant de 11 ans avait tout compris.
Bien sûr.
Pensez-vous, dans la prochaine édition, consacrer une notice à notre cher abbé Guérin, qui est un grand dévot marial, Monseigneur ?
Alors, une notice, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de notices, enfin, il y a quelques heures, mais c'est des grands... Mais en tout cas, il serait certainement possible de le mentionner parmi les bénéficiaires de l'apparition. Ça, oui, dans la liste des bénéficiaires de l'apparition, alors peut-être qu'on mettrait une notice, pourquoi pas, enfin, il faut voir le cas échéant, mais il faut d'abord que la bénéficiation arrive et qu'il y ait une nouvelle édition.
Enfin, ça, pense qu'elle viendra, parce que c'est un livre réellement précieux. Enfin, Monseigneur...
Je suis persuadé qu'elle viendra aussi, donc je garde ça en tête, et pour le moment venu, et...
Deux mots pour conclure, Monseigneur. L'actualité de la dévotion mariale dans le contexte actuel, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais...
Je pense que la dévotion mariale est d'actualité plus que jamais. Bien souvent, nous nous sentons impuissants face aux événements qui se produisent sous nos yeux et à l'évolution résolument anticatholique d'une société qui rejette Dieu et ne veut même pas en prononcer le nom. Alors, bien qu'il nous tourne, si nous venons de notre Mère du Ciel... que l'Église qualifie de toute-puissance oubliante, on l'a rappelé tout à l'heure. Elle a souvent montré par le passé qu'en recourant à elle, les situations politiques pouvaient changer du tout au tout. Pensons à Lépante, pensons à Vienne plusieurs fois, pensons au Brésil, pensons à ce qui serait passé si ce qu'elle avait demandé à Fatima avait été fait sur le champ, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. On aurait pu éviter le communisme, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc faisons-le confiance pour agir de même maintenant. Mais pour cela, encore faut-il, comme on vient de le dire aussi, avoir recours à cette arme singulièrement efficace qu'est le chapelet.
Un grand merci à vous, Monseigneur. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir Monseigneur Le Tourneau, auteur, co-auteur avec Pascal Raphaël Ambrogi du Dictionnaire encyclopédique de Marie, paru chez Desclées de Brouwer. Merci encore à vous, Monseigneur, et bonne journée.
Merci beaucoup, madame. Pareillement, bonne journée. Merci beaucoup.
Au revoir, Monseigneur.